Le débat africain. Alain Foucault.
Jacques, 86 ans, après un périple de 450 km, est monté à la capitale pour toucher sa maigre pension de retraite des 3 derniers mois. Après plusieurs jours de souffrance dans les services administratifs et des multiples humiliations, il a été sauvagement agressé sur le chemin de retour par des bandits qui ont récupéré son argent. Il est mort quelques jours après, de suite de ses blessures. Quand est-ce que le retraité, le vieillard à qui on dit accorder tout le respect en Afrique, va pouvoir au moins recevoir sa pension, son dû, en restant chez lui à la maison? Colette, 73 ans, reçoit elle chaque mois un transfert d'argent de son fils qui vit à 400 km de son village pour payer ses factures d'eau et d'électricité. Ce mois-ci, elle est malade, elle souffre d'arthrose et ne peut marcher. Impossible pour elle d'aller cette fois-ci jusqu'au guichet de la compagnie d'électricité. Compagnie qui, elle, ne l'a pas oubliée puisqu'elle est venue lui couper l'énergie à la maison. Elle est dans le noir. Quand est-ce que son fils, qui est à la ville, va pouvoir régler directement ses factures en ligne comme on le fait partout ailleurs dans les pays dits modernes? Quand est-ce qu'il va prendre rendez-vous pour elle chez le médecin en restant chez lui? Et puis, quand est-ce que son fils, qui est à l'étranger, va obtenir sa copie d'acte de naissance nécessaire à la constitution d'un dossier administratif sans avoir à effectuer l'onéreux déplacement au pays? Bref, quand est-ce qu'on sort des grands discours sur la digitalisation, sur la numérisation des services publics pour rendre concrets ses besoins pour le citoyen? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain enregistré en marge du Bamako Digital Days, qui a réuni dans la capitale malienne les 18 et 19 février dernier des centaines de professionnels du numérique et de l'intelligence artificielle. Forum co-organisé par Yelena, une agence de communication du Sénégal et à Côte d'Ivoire, et le ministère de l'économie numérique et de la prospective. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Madame Kamissa Camara, la ministre malienne de l'économie numérique et de la prospective. Bonjour, Madame la ministre.
Bonjour.
On dit Madame la ministre ou Madame le ministre?
On m'appelle souvent Monsieur le ministre, donc comme vous voulez.
Très bien. Alors, je vais aller à Madame le ministre. Second invité de ce plateau, Amadou Touré, ancien directeur exécutif et fondateur de Smart Africa, une alliance stratégique au service du développement des TIC en Afrique. Aujourd'hui, il est le patron de Spicacom. Une entreprise qui fait dans quoi exactement, monsieur
Amadou? Je suis
plutôt
dans les data centers.
Dans les data centers. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Notre troisième invité, je rappelle quand même que vous étiez, pour être tout à fait complet, candidat à la présidentielle malienne en 2018, en juillet.
Oui, mais j'espère qu'on ne va pas parler de politique ici aujourd'hui.
Non, on ne parlera pas de politique. Notre troisième invité est monsieur Serigne Barrault, qui est sur ce plateau le patron de l'agence digitale People Input, basée à Dakar et présent dans combien de pays déjà?
3 pays.
Dans 3 pays. Bonjour et bienvenue chez vous.
Bonjour Alain.
Alors j'ai envie de commencer en disant, quand vous écoutez l'histoire de toutes ces personnes qui souffrent du fait qu'ils ne peuvent pas bénéficier des services de la digitalisation des pouvoirs publics, qu'est-ce que ça vous fait exactement, Madame la ministre?
Alors la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est que au Mali, on utilise énormément les transferts d'argent par téléphonie mobile. Mmh. Nous avons donc loin de moi l'idée de faire la publicité de Orange Money ou de MobiCash, mais ce
pour
sont
pour ne pas les citer.
Bon, pour ne pas les citer exactement, mmh. Mais ce sont des moyens qui sont utilisés dans le quotidien des Maliens. Mmh. Donc même dans le cadre du transfert de fonds de retraite ou du fils qui est à la capitale et qui veut envoyer de l'argent à sa maman, le mobile banking, comme on l'appelle en anglais, les transferts d'argent par téléphone sont monnaie courante au Mali.
Oui, mais est-ce que les transferts d'argent, est-ce que les autres services administratifs se mettent au goût du jour?
Petit
pour faciliter
à petit,
la vie aux gens.
Petit à petit, ça prend du temps. Hein. C'est un gros chantier. Ça prend du temps. On a compris qu'il y a une nécessité. C'est une urgence de dématérialiser tout ça. Mmh. Mais pour notre défense, je dirais que même en France, c'est très récent tout ça.
C'est très récent, mais on ne va pas attendre autant d'années
non,
pour
non,
pouvoir
absolument,
y accéder.
Absolument pas.
Et puis, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions.
Ça avance très vite. C'est important. Mmh. Et nous devons absolument aller vers cela. Donc, il y a certaines mairies, par exemple, au Mali, qui adoptent la digitalisation pour, justement, les actes de naissance, les actes de mariage. Mais je pense qu'il y a des initiatives locales qui doivent se prendre également.
En tout cas, vous êtes en charge de cela et
voilà.
Vous allez pouvoir nous l'expliquer ici. À People Input, c'est votre travail. Est-ce que vous travaillez avec des administrations dans ce sens-là, dans la digitalisation?
Donc, je vais dans le sens de Madame le ministre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mobile fait partie du quotidien et les transactions mobiles sont une réelle avancée sur le continent africain. Je pense qu'on est même un continent pionnier sur beaucoup d'usages liés à l'utilisation du téléphone portable et particulièrement du mobile money. Pour ce qui est du cas particulier de l'utilisation dans le domaine public, Il est vrai que
on est en
ça,
retard.
Ça tarde à venir.
On est très en retard.
Il y a énormément de demandes aujourd'hui. Nous accompagnons des sociétés dans le domaine bancaire, dans le domaine industriel, des opérateurs télécoms sur des chantiers de transformation digitale. Mmh. Peut-être faire un petit rappel sur le terme transformation digitale, digitalisation dont on parle souvent. Mmh. Il y a deux aspects qui sont concernés essentiellement. Le premier aspect, c'est l'amélioration d'un process existant. Le second aspect, c'est la facilitation de l'accès au contenu.
Là, vous nous perdez.
Bon.
Parlons en français facile. Très concrètement, ça veut dire que le citoyen veut pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services en restant chez lui, en utilisant tout simplement soit son smartphone, soit son ordinateur, son laptop. C'est un peu ça, non ?
Exactement.
Donc, qu'il puisse accéder à un certain nombre de données, qui peuvent être ceux de la poste, qui peuvent être ceux d'une administration lambda, où il peut tirer son extrait de casier judiciaire, par exemple.
Ça peut être un usage. Donc, un projet sur lequel nous sommes en train de travailler pour des raisons de confidentialité. Je ne peux pas vous préciser le pays.
Oh non, dites-nous un peu.
Ça va être difficile pour nous. Mais aujourd'hui, certaines administrations, certaines régies financières se posent la question de pouvoir utiliser les solutions de Mobile Money pour effectuer des paiements. Donc on est en train de travailler sur la conception.
Comme les impôts, par exemple.
Exactement. L'idée, c'est de permettre à certains impôts de collecter des taxes avec des solutions de Mobile Money.
Ça commence à être mis en place au Mali, Madame la Ministre ?
Le besoin se fait sentir, notamment, enfin, je pense là, par exemple, à la digitalisation des péages. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. On aimerait que...
Mais bon, ça, c'est quand même pour les nantis, le péage.
Non, mais je veux dire que c'est une question pour des questions de transparence. Pour des questions de transparence, il y a des solutions qui sont là, qui existent. Mais encore une fois, c'est une question de vulgarisation, de communication et d'appropriation. Ça, c'est très important.
Amadou Touré, vous étiez le patron, le fondateur de Smart Africa. Il faudrait peut-être qu'on explique ce que c'était, puisque c'était un peu la mutualisation de toutes les solutions et toutes les stratégies.
Vous savez, quand je quittais mon poste de secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications à Genève, le besoin se faisait sentir en Afrique ici de coordonner les efforts. Il y a beaucoup de progrès qui se sont passés au cours des dernières années en Afrique ici. Écoutez, vous parlez tout de suite de la monnaie mobile, mais la monnaie mobile a été inventée ici en Afrique. C'était au Kenya et en Ouganda que ça a été inventé. Et grâce à cela, grâce à une invention africaine, évidemment, vous pouvez payer votre parking à New York ou à Tokyo. Vous pouvez payer un hamburger à Sydney ou autre. Et donc, je veux dire par là qu'il y a une opportunité qui est là. Les jeunes Africains ont plein de talents. Et ce n'est pas par le gouvernement, c'est par le secteur privé. Les différentes applications que nous avons sur nos smartphones aujourd'hui, vous avez des centaines d'applications qui ne vous appartiennent pas, qui n'ont ni été faites par vous, ni pour vous. Parce que une application, c'est quoi ? C'est une solution récurrente à un problème récurrent. Une solution locale à un problème local. Et donc, il y a des centaines de milliers d'applications, de nouvelles applications que nos jeunes Africains pourront créer très bientôt et qui feront que ça va leur créer, ils vont créer des emplois.
Mais pour qu'ils se mettent à créer, il faudrait peut-être qu'on les ait déjà formés et qu'ils soient au courant de la chose numérique.
Justement, et au niveau national, ce qui doit se faire, les gouvernements doivent prendre l'initiative de coordonner ces efforts-là, de les encourager. Et aussi, au niveau continental, de coordonner les différents efforts gouvernementaux pour que nous puissions avoir des systèmes qui sont interopérationnels.
Lorsqu'on écoute la discussion sur cette question de la numérisation, de la digitalisation, on se rend compte que c'est l'État qui doit impulser. Est-ce qu'il y a cette démarche de dire, voilà un secteur dans lequel il y a une urgence, nous allons en faire une priorité. Vous êtes dans un gouvernement, avez-vous le sentiment que ça devient une priorité, parce que sinon on sera les derniers de la classe?
Tout à fait. Mon ministère s'appelle le ministère de l'économie numérique et de la prospective. C'est un message qu'on veut donner, qui consiste à dire que nous voulons mettre le numérique au cœur de notre développement. Je vais devoir avoir un avis un peu différent de celui de Dr Touré. L'objectif de digitalisation ou les initiatives de digitalisation ne sont pas à 100% issues du privé. Le gouvernement, par exemple, nous au Mali, nous avons une agence de gestion des technologies de l'information et de la communication et nous avons comme grand chantier la dématérialisation du travail gouvernemental, l'utilisation d'une messagerie gouvernementale, l'archivage des agences gouvernementales. Et je pense qu'on accompagne cette digitalisation qui se fait même naturellement au niveau des jeunes. On n'a pas besoin d'aller les emmener à l'école.
Cela, hein, non, parce non, que je,
Nous avons, par exemple, dans le cadre du ministère, organisé des compétitions de start-up de manière mensuelle. Mmh. Ces jeunes-là, nous ne les avons jamais croisés dans des écoles. Ça devient presque instinctif pour eux d'inventer ces solutions-là. Ils viennent nous les présenter et des fois, on est juste ébahis. Mmh. Et pourtant, ils n'ont pas appris cela à l'école.
Mais il faut quand même quelque chose pour impulser. On a le sentiment, lorsque l'on regarde un peu, je le dis un peu sous le contrôle de Delphine, ma collaboratrice, généralement, quand on est à Paris, on cherche à joindre une administration, à joindre un ministère, c'est le flou absolu. C'est-à-dire, vous avez un numéro de téléphone qui est totalement dépassé et quand vous tapez sur Internet pour pouvoir rentrer en contact avec le ministère, il n'y a rien. Donc, lorsque vous me dites que...
J'ai vécu suffisamment longtemps en Europe pour vous dire que c'est la même chose en Europe aussi.
Oh, pas tant que ça.
Ils ne sont pas aussi avancés que nous.
Parce qu'à chercher les adresses, on a l'habitude de chercher les adresses des uns et des autres sur l'Afrique quand même. Je suis désolé, ça reste en retard. Est-ce que votre ministère a travaillé dans ce sens-là ?
Au Mali, c'est un peu plus facile parce qu'on a une cité administrative dans, laquelle tous les ministères se retrouvent. Donc, cette question ne se pose pas vraiment.
Non, pour abonder dans le même sens que Madame la ministre, je pense que le rôle des gouvernements, c'est de jouer un rôle de catalyseur et ils sont en train de le faire. Et le secteur privé vient s'y ajouter, mais il faut que les individus eux-mêmes soient les
On va arriver aux individus, mais là, dans un premier temps, je voudrais quand même poser la question de savoir est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les différentes administrations ont conscience que c'est elles qui doivent impulser.
Mais ils mettent d'abord une autorité de régulation parce qu'il faut une réglementation d'abord pour pouvoir faire une législation pour ça. Et ça, nous avons des autorités de régulation dans tous les pays.
Tout à fait.
Il y a même une coordination qui a été faite au sein de l'Union internationale des télécommunications quand j'étais encore directeur du BDT avant d'être secrétaire général. Cette coordination, une harmonisation des politiques. En Afrique de l'Ouest, c'est le cas. Mm-hmm. En Afrique centrale, c'est le cas. En Afrique de l'Est aussi.
Il y a une harmonisation des... Ah oui. Mais lorsqu'on arrive quand même dans certains pays, on a le sentiment quand même qu'on est...
Non, je vous
on
dis,
a pas décollé ces politiques-là. Et là, je vois Serim Barrault qui garde le silence poli, mais alors, tu es confronté à ça quand même.
Alors, c'est un besoin aujourd'hui, mais c'est une réelle opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout à faire sur le marché. Je pense que le vrai problème, c'est un problème de communication. Il y a des initiatives qui sont menées par certains ministères. Visiblement, au Mali, c'est bien coordonné. Je pense que dans d'autres pays, ça l'est moins.
Ça l'est beaucoup moins.
Okay. Au sein de Smart
quand
Africa.
Quand on regarde un peu en Afrique centrale, c'est très, très peu coordonné.
Au sein de Smart Africa, nous sommes assurés que chaque pays qui est membre de l'organisation prenait en compte au niveau local une activité bien et bien précise. Au Mali, c'était l'emploi, les technologies de l'information et de la communication et l'emploi.
C'est-à-dire le domaine qui était attribué au Mali,
dans un autre pays, c'était...
Revenons au Mali.
Au Mali, c'était TIC et création d'emplois.
TIC et création d'emplois, pour ceux qui étaient du Mali.
Voilà. Et le Mali devait donc expérimenter cela et présenter cela au bout de quelques années aux autres pays pour que les autres aussi apprennent et ils font la même chose, ils font quelque chose dans le même sens. Mmh. De la même façon, le Rwanda avait comme ligne d'action les smart cities, et le Gabon, l'économie numérique, des choses comme ça. Et chaque pays doit faire quelque chose. Ça permettait...
Mais en toute honnêteté, docteur Touré, avez-vous l'impression que ça a été respecté?
Mais oui. Parce que vous savez, quand vous confiez une tâche, c'était ça le plan, parce que nous savons que les pays laissés à eux seuls individuellement pourraient être lents. Mais s'ils savent qu'ils vont tous ensemble, et leur chef d'État sera là à la prochaine réunion.
Est-ce que la politique
réunion
n'a pas pris le dessus? Est-ce que la politique n'a pas pris le dessus?
Non, la politique ne prend pas le dessus parce que les techniciens doivent présenter quelque chose à la prochaine réunion où les chefs d'État seront là. Ils ne vont pas embarrasser leur président. Donc, ils s'assurent qu'il faut quelque chose qui se passe. Et c'est ça, nous avons trouvé le bon créneau, pour que tout le monde aille vite et que tout le monde aille ensemble.
Quand vous parlez du Gabon pour l'économie numérique, est-ce que ça, vous avez obtenu
le
résultat?
Le Gabon nous a présenté, le Gabon dirige par exemple le Conseil africain des régulateurs. À la suite de leur rapport, du premier rapport qu'ils ont fait, ils ont recommandé la création d'un Conseil africain des régulateurs pour pouvoir encore mieux coordonner toutes ces activités-là.
Quand j'entends ça, que tout est mieux dans le meilleur des mondes possible, je ne sais pas ce que j'entends.
Non, je suis tout simplement un optimiste.
Oui, vous êtes optimiste, mais dans la réalité, ce n'est pas
dans
cela.
Réalité, oui.
Madame le ministre, soyons quand même honnêtes, on ne peut pas dire que cela ait créé tant d'emplois que cela, vous qui, au Mali, aviez le rôle de créer des emplois avec le digital.
Vous avez raison lorsque vous dites que... Moi, je pense qu'on n'est pas encore à l'heure du bilan. Je pense que nous, au niveau du Mali, on est très modeste et très humble par rapport au progrès qu'on a fait dans le domaine du digital et du numérique. Ça fait à peine, 2-3 mois qu'on a adopté la loi sur les start-up. On est en train de vouloir créer un cadre législatif, réglementaire, juridique pour permettre à nos jeunes entrepreneurs de progresser. On n'est pas encore à l'heure du bilan.
On en est loin.
Et un point que je voulais rajouter, parce que j'entends bien le propos de Dr Touré, je pense qu'il y a au niveau africain une sorte d'émulation. Il y a une compétition positive.
Il y a une émulation, mais peut-être qu'il faut structurer cette émulation, mais comme il le disait.
Je pense que ça, c'est le rôle de Smart
Africa. Parce qu'on a le sentiment.
C'est le rôle de Smart Africa.
Mais laissez-la terminer, parce qu'elle a parlé de compétition positive, c'est ça, justement, le mot. C'est le mot-clé, en réalité.
C'est vraiment ça. Et puis, on a des leaders dans le domaine du numérique, tels que le Rwanda. Moi, je suis allée au Rwanda juste peut-être une semaine après ma prise de fonction. J'étais tellement émerveillée. Je me suis dit, je veux faire exactement la même chose.
Tout le monde ne parle que du Rwanda, mais il n'y a pas que le Rwanda en Afrique. C'est très bien qu'on est moderne. Mais dans le même temps, les autres ne suivent pas.
Non, mais ça prend du temps. Je pense qu'il y a vraiment, c'est une culture qu'il faut changer.
Peut-être que les hommes ne sont pas ceux qui devraient faire le changement, non? Vous êtes peut-être la plus jeune avec celle du Bénin, ministre dans ce domaine-là, mais généralement on rencontre quand même des personnes qui n'y comprennent pas grand-chose, qui sont là pour faire le changement. Est-ce que ce n'est pas là la question?
Elle devrait suivre. Je pense que on va inéluctablement vers le numérique. Ce n'est même plus un choix. Il faut le faire comprendre.
Mais il faut aller en ordre organisé.
Il faut le leadership qui force les choses et qui montre le chemin.
Alors, un point très important, Alain, c'est que les projets de digitalisation ne sont pas des projets technologiques. Fondamentalement, c'est des projets de conduite du changement, des projets de ressources humaines. Il faut que les gens changent de manière de faire, changent d'habitude et acceptent les nouveaux outils qui sont mis en place. Mmh. Et souvent, dans le cadre de déploiement, on en parlait hier lors d'un panel sur la douane, par exemple. Certains outils ont été déployés dans certains pays. Et à l'usage, il y a des blocages, il y a des réticences liées aux problèmes de transparence. Okay. Donc certains utilisateurs ne veulent pas une transparence, ne veulent pas une facilitation.
Question de gouvernance.
Process.
Donc là,
parce que la technologie est maîtrisée. Aujourd'hui, tout le monde s'est développé.
Avant qu'on passe à la seconde partie, qui était le privé et puis les ressources humaines, j'avais envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un débat autour même de la formation des jeunes? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas des centres où des jeunes ont accès à l'outil, tout simplement? Parce que pour l'instant, on a l'impression que tout le monde a accès, puisqu'on a un smartphone en main. Mais ce n'est pas aussi évident que cela.
Pour moi, c'est évident. C'est justement évident parce que le smartphone, c'est ce qui procure cet accès universel. Nous, au niveau de l'AGFO, qui est l'agence de gestion du fonds d'accès universel, on a mis en place ce qu'on appelait des cases Wi-Fi à travers le pays et surtout dans les zones les plus reculées. Et donc, nous donnons l'opportunité à des femmes et à des jeunes d'avoir accès à l'outil informatique. Et nous l'adaptons aussi aux langues nationales. Donc ça, c'est important. Mais non, je dirais que le smartphone, c'est vraiment l'outil de vulgarisation qui est utilisé par tout le monde et sur lequel on doit s'appuyer pour aller vers cette digitalisation.
Mais il faudrait peut-être qu'on les ait formés à...
Mais il faut former tout le monde, en fait, dans l'écosystème. Il faut former les législateurs, il faut former les utilisateurs, il faut former les professionnels du secteur, il faut former dans les écoles. Actuellement, c'est rares sont les pays qui ont le codage dans le curriculum, dans le programme scolaire. Mmh. Alors que les enfants de demain qui n'auront pas eu une formation dans le codage seront des analphabètes.
Mais c'est pour ça que je parlais du rôle de l'administration.
C'est ça, c'est le modèle coréen, en fait, où ils ont mis une agence spécifique, CADO à l'époque, qui s'appelait CADO, qui a formé toutes les couches du secteur.
Mais c'est de ça qu'il est question, je crois,
Et ça, il le faut. Mmh. Alors, y compris les législateurs. Ce sont les premiers... parce que madame le ministre certainement me confirmera cela, sa plus grande difficulté, c'est de convaincre les députés à faire passer des projets de loi.
Mais c'est de ça que je parlais, justement.
Et surtout, passer des amendements à des projets de loi. Alors que nous sommes dans une technologie qui avance tellement vite que certaines lois que vous allez vous faire voter aujourd'hui, dès demain, elles seront obsolètes.
Obsolètes.
Et donc,
il faut les réadapter.
Et ce n'est pas de l'incompétence.
Comme on dit dans la langue. On va en parler dans la seconde partie du débat africain, puisque nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine. On évoquera les ressources humaines, mais également le rôle entre le public et le privé, qui est très très important, où on a encore du mal. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. À très vite.
Le débat africain, à Alain Foucault.
On ne parle que de ça dans les médias. Les rencontres et les forats se multiplient sur la question. La digitalisation, la numérisation. On dit que l'Afrique ne va pas louper cette révolution. Qu'elle a à la fois le potentiel et les ressources humaines pour transformer son environnement et améliorer la vie des citoyens. Mais dans le même temps, dans la plupart des nations, on continue de vivre comme avant. On fait la queue à l'hôpital pour un simple rendez-vous avec le médecin et très récemment dans un pays d'Afrique centrale, après l'incendie d'un centre d'état civil, d'une petite ville, les populations se sont retrouvées sans aucune base pour obtenir la délivrance de leur copie d'acte de naissance ou de leur fiche individuelle d'état civil, les registres ayant brûlé. À quand la numérisation, la digitalisation au service concret du citoyen en Afrique? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain enregistré à Bamako en marge du Bamako Digital Days. Forum qui a réuni dans la capitale malienne les 18 et 19 février dernier des centaines de professionnels du numérique et de l'intelligence artificielle. Forum organisé par la boîte de communication Yelena en partenariat avec le ministère de l'économie numérique et de la prospective du Mali. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord Madame Kamissa Camara, la ministre de l'économie numérique et de la prospective justement. Second invité de ce plateau, Amadou Touré, ancien directeur exécutif et fondateur de Smart Africa, une alliance stratégique au service du développement des TIC en Afrique. Aujourd'hui, il est le patron du Spicacom, une entreprise qui est dans les DATAF. Et je rappelle pour être complet que vous étiez candidat à la présidentielle en 2018, mais on n'en parle pas, rassurez-vous. Notre troisième invité est M. Sérine Barrault, qui est le patron de l'agence digitale People Input, basé à Dakar et présent dans plusieurs pays, trois pays d'Afrique. Voilà. Dans la première partie de ce magazine, on a parlé un peu du rôle de l'État, du rôle des pouvoirs publics qui doit être d'impulser cette démarche numérique, cette démarche digitale dans nos pays qui, d'après ce que dit la ministre, est inéluctable. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qui doit impulser? Est-ce que c'est le privé aussi qui doit proposer à l'État? Et est-ce que le privé est en position de proposer des choses à l'État aujourd'hui? Là, je m'adresse à Sérine Barrault.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes qui sont proposées, notamment des concours de start-up, en tout cas des appels à projets qui sont organisés par les administrations des différents pays. Et aujourd'hui, des porteurs de projets ont la possibilité de présenter des projets. Alors, on en est au début de la réflexion et au début de l'approche. C'est vrai qu'on n'a pas encore de recul sur des projets qui ont été réalisés, qui ont été déployés et qui impactent sur le quotidien des citoyens. Mm-hmm. Je pense que dans quelques années, on va y arriver.
Mais on a le sentiment qu'ailleurs, ce sont les privés qui ont proposé des choses, qui ont proposé des solutions et que l'État a adopté par la suite, Amadou Touré.
Mais c'est ça, justement. Nous avons tendance à donner des contrats à des sociétés qui viennent de loin, d'Asie ou ailleurs, alors que nos jeunes compagnies sont là, on doit leur faire confiance. Il s'agit de les encourager et utiliser des applications qu'ils vont mettre en place. Certaines applications ne seront certes pas parfaites au départ, mais ils vont faire l'ajustement au fur et à mesure. Et c'est comme ça que les startups démarrent. Il y a aussi cette confiance-là qu'on doit donner aux startups dans le mécanisme de financement. Parce que créer une startup est lié à un potentiel échec.
Avant d'arriver 80%. Là, est-ce qu'il y a déjà cette émulation chez les jeunes qui se disent, voilà, ok, je vais faire une application, je vais travailler dessus. Est-ce que ça existe dans l'esprit déjà? Parce que peut-être qu'ils attendent d'être dans des entreprises où on les a embauchés avant de proposer. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que les jeunes se disent, je vais créer mon application de plus en plus?
Dans le cas du Mali, je l'ai expliqué lors de la première partie de l'émission, nous avons initié une compétition mensuelle des startups maliennes. Et à chaque compétition, nous faisons la découverte de jeunes Maliens qui ont développé des solutions. Et on ne les connaissait pas nécessairement avant, en tout cas pas dans le cadre du gouvernement. Et ce sont des jeunes qui évoluent dans le secteur du numérique depuis plusieurs années pour certaines d'entre elles. Et elles ont simplement besoin d'un petit coup de pouce, d'une plateforme pour leur permettre d'avoir accès à certains investissements. Donc ça existe, le cadre est là. Et nous, en tant que gouvernement, nous devons créer ce cadre-là pour leur permettre justement de développer leurs solutions et de créer, pourquoi pas, des petites entreprises.
Mais est-ce que quand vous rencontrez des jeunes, ils sont plus emballés à créer leur affaire aujourd'hui, à faire des applications que par le passé? Ou est-ce que vous sentez encore des jeunes qui se disent « je vais être embauché par une grande boîte qui va utiliser mes compétences, Sérine Barrault ?»
Alors, il y a un buzz qui est celui des startups. Tout le monde rêve de lever des fonds, tout le monde rêve d'être le prochain Mark Zuckerberg. Bon, mais qui, en tout cas de mon point de vue, va ralentir ou en tout cas se dégonfler. À un moment donné, on va retourner aux fondamentaux de l'entreprise. Il faut des entreprises qui génèrent des revenus, il faut des entreprises qui génèrent une certaine rentabilité. C'est bien beau de lever des fonds, okay, mais il faut, à la fin de la journée, avoir un business pérenne qui puisse justifier de traverser le temps, okay, et de répondre à un besoin spécifique sur le marché.
On a écouté pas mal de gens dire « oui, on ne va pas créer des start-up parce que dès qu'il y a des marchés, on regarde plutôt les grosses structures internationales pour leur donner des marchés ». C'est un peu vrai, dans le même temps, Madame la Ministre, qu'on ne fait pas confiance à ces start-up.
Je pense que ça va venir. C'est nouveau, hein, ce concept de start-up. D'ailleurs, la question qui revient souvent, c'est oui, mais start-up, c'est un terme anglicisé. Est-ce que on ne cherche pas à copier un peu ce qui se fait outre-Atlantique? Est-ce que c'est vraiment africain, les start-up? En fait, moi, j'ai l'impression que les start-up ont presque toujours existé. C'est juste que là, maintenant, on leur donne un label qui fait que, ben, sur la scène internationale, on sait exactement de quoi on parle. Donc, elles ont toujours existé. C'est vrai qu'on fait plus confiance aux grosses entreprises, mais je pense que là, lorsqu'on parle de start-up, c'est le terme innovation qui me vient à l'esprit. C'est des solutions innovantes à fort potentiel de croissance. Il faut miser dessus. Donc, si on ne mise pas là-dessus, effectivement, elle pourrait être amenée à disparaître. Mais c'est sur l'idée qu'on investit. C'est pas nécessairement sur...
L'idée est généralement mieux vendue que lorsque on a une grosse boîte qui arrive avec des grands spécialistes bien blancs qui atterrissent sur le territoire. On a tendance à plus leur faire confiance qu'à un jeune homme qui arrive un peu de l'arrière-pays avec son projet, non? C'est vrai ou pas? J'exagère quand je dis ça.
Mais il y a une responsabilité partagée. Je dis, il faudrait que les jeunes aient le courage de venir aussi d'abord avec les projets. D'accepter le fait que la première fois que vous venez avec un projet, c'est pas forcément que ça va marcher dans la Silicon Valley.
Oui, mais les autres arrivent avec des projets qui, lorsqu'ils s'en vont, ça ne marche pas et on a payé cher.
Et les gouvernements doivent justement donner la chance à ceux-ci. Et il faut que aussi qu'on voit quelques sociétés africaines, des jeunes africains qui ont déjà réussi à devenir des millionnaires, sinon des milliardaires.
Et là, oui, mais qui va les rendre milliardaires si on ne leur donne pas les marchés? Je pense que c'est ça justement la question. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de confiance entre les pouvoirs publics africains et leurs propres enfants? Est-ce qu'on n'assiste pas à ça?
Je ne veux pas qu'on attende tout du gouvernement.
Moi, je vous sens un peu plus frileux aujourd'hui, mais est-ce que ce n'est pas la réalité, Cérine Barreau?
Ah non, mais aujourd'hui, les plus gros marchés sont les marchés de l'administration dans tous nos pays, et particulièrement sur des pays francophones. L'accès à ces marchés est quand même relativement complexe. Okay. C'est un parcours du combattant. Il faut avoir de bons appuis, il faut avoir de bonnes entrées. Après, ça fait partie des règles de l'entrepreneuriat.
Oui, mais j'ai entendu quelqu'un ici à Bamako, que je connaissais depuis un moment, qui dit, voilà, je suis allé chercher une entreprise qui avait un nom déjà pour vendre une solution que j'ai créée. C'est quand même grave, non, Madame la Ministre?
Non, je ne pense pas que ce soit grave. Il faut aussi, lorsqu'on attribue un marché, que l'entreprise à laquelle on l'attribue a... qu'elle puisse absorber la somme d'argent qu'on lui donne. Une start-up, par définition, c'est 2-3 personnes, voire 10, mais au grand maximum. Donc ce sont peut-être des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement l'expérience nécessaire. Donc je pense que ce que vous venez de décrire là, si j'étais une start-up, ce serait peut-être la stratégie que j'adopterais pour avoir de l'expérience et prétendre à de plus gros marchés.
Mais est-ce que ça ne pose pas la question même du financement de ce domaine du digital en Afrique? C'est-à-dire, c'est dire, voilà, ok, si on veut aussi avoir des champions, parce qu'il y a des domaines de souveraineté qu'on ne doit pas toujours confier à des entreprises étrangères, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à un mode de financement de ces entreprises-là pour que, dans les domaines qui sont des domaines de souveraineté, cela revienne à des entreprises locales? On a du mal à imaginer, par exemple, les États-Unis d'Amérique confier leur sécurité à une entreprise qui vient d'Asie.
Ou d'Afrique.
Ou d'Afrique.
c'est impensable. Non, mais aujourd'hui, c'est le vrai débat. Et je pense que si cette émission aide et peut aider à changer les mentalités, à ouvrir les mentalités de certains dirigeants, je pense que ça serait une bonne chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de faire confiance à des entreprises locales, à une expertise locale, quitte à encourager des joint ventures, okay, trouver un partenaire international qui ait une expertise. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est un problème de souveraineté. Je vais même être précis, une société malienne ou sénégalaise ne peut pas postuler sur un marché de souveraineté au Maroc, par exemple.
Mais pourtant, les autres viennent dans ce sens-là. Est-ce que notre indépendance africaine ne commence pas par là. Vous qui êtes en charge de, justement, du numérique ici, est-ce que ce ne doit pas être une réelle préoccupation que l'on confie les douanes, que l'on confie le port, pour ceux qui en ont, etc., à d'autres entreprises qui apportent des solutions qui pourraient être développées sur place? Est-ce que ça ne devrait pas interpeller les dirigeants africains?
C'est une question qui revient souvent et c'est pour cela que l'expression souveraineté numérique revient souvent dans tous les débats. Je pense que l'idéal, effectivement, serait de confier ces questions sensibles, par exemple, production de cartes d'identité ou de cartes d'électeurs, les données biométriques. Malheureusement, dans la plupart de nos pays, ces données-là, qui sont des données souveraines, sont confiées à des entreprises étrangères. Et on aimerait que dans le futur, ce soit des entreprises locales qui les gèrent. Mais nous n'avons pas encore la capacité pour le faire. Oui, et nous sommes réalistes par rapport
à
ça.
Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à adopter pour que nous puissions, quitte à ce que ce soit mutualisé avec des pays voisins, pour que nous puissions avoir la main sur ce domaine qui sont des domaines de souveraineté?
En tout cas, au Mali, la première question qui s'est posée, on s'est dit que si nous avions une stratégie, la première, ce serait le stockage des données. On a des data centers, donc des centres de données que nous avons créés et qui sont au niveau de la société malienne de transmission et de diffusion. On s'est dit que si on pouvait stocker déjà les données au Mali, on aurait fait un grand pas dans le sens de la souveraineté numérique. Donc je pense que petit à petit c'est en train de se faire. Ce sont des préoccupations qui sont là.
Est-ce qu'on en a vraiment conscience? Est-ce qu'on en parle en conscience?
On en discute régulièrement. Attendez. Alors premièrement, on en a conscience. Maintenant, vous me parlez du Conseil des ministres, le numérique, ce sont des préoccupations nouvelles. Et des fois, je ne vous cache pas, j'ai certains collègues qui ne comprennent pas ce que je leur dis.
Ce serait bien ce que je pensais.
Voilà. mais il y a beaucoup d'efforts de communication, de vulgarisation et justement de simplification de notre langage à avoir. Parce qu'il y a une appropriation qui manque dans le domaine du numérique, mais je pense qu'on va vers cela.
Alors souvent, on parle de coûts. Est-ce que la mutualisation n'est pas la clé? Est-ce que, par exemple, on a besoin d'avoir autant de centres de stockage de données? Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de centres, je veux dire, d'infrastructures, alors qu'on pourrait mutualiser et ça rendrait les choses beaucoup plus faciles à gérer, docteur Amadou Ntouré?
Mais c'était l'objet de ma présentation ce matin pendant le forum. Justement, le fait de mutualiser était une composante très importante parce que quand vous vous promenez dans n'importe quelle ville africaine aujourd'hui, vous trouverez au même lieu 3 ou 4 pylônes de télécommunications, alors qu'il y a certaines zones qui ne sont pas servies. Une mutualisation de ces pylônes-là, l'utilisation d'un seul pylône pour tous les opérateurs avec la même source d'énergie qui fait baisser le coût est très importante. Nous avons aussi proposé le roaming africain afin que le coût de la communication des pays africains soit le même.
Dans 54 États.
Mais mieux, la mutualisation permettra aussi un roaming intérieur, parce que si vous êtes abonné d'un des opérateurs aujourd'hui dans un pays, vous allez à l'intérieur du pays, si cet opérateur n'est pas couvert, eh bien, vous n'avez pas de communication. Résultat, vous avez 2 ou 3 SIM cartes.
Dès que vous dites ça, vous vous mettez à dos tous les opérateurs de téléphonie
qui se disent,
voilà, il va nous gâter notre affaire.
Non, de toute façon, parce que vous ne parlerez qu'une seule fois à la même personne, donc en réalité, c'est
oui, mais le roaming est quand même ce sur quoi ils ont des gros revenus. Celui qui est au Mali...
La baisse, on a fait une étude très, très claire, la baisse du coût de la communication augmentait justement le nombre de minutes de communication. Du coup, leur revenu augmentait.
Mais alors pourquoi ça ne se fait pas si c'est gagnant-gagnant?
Mais c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Mais cela est en cours parce que dans le projet Smart Africa, on a fait cette décision-là. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont pris la décision en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale aussi, en Afrique de l'Est. Maintenant, on doit aller à la deuxième phase où...
Traditionnellement, on prend les décisions qui ne prennent jamais forme.
Au niveau régional. Non, c'est en application.
Mais là, pour l'instant, on est un peu comme Saint Thomas. On attend de voir parce que pour l'instant, quand vous allez de Bamako à Niamey, le roaming, il n'existe pas.
Alors qu'en réalité, techniquement, le coût de la communication, si je vais par exemple, je prends un exemple d'un des opérateurs au Mali ici, qui est en même temps en Côte d'Ivoire, et ils ont leur équipement de communication en Côte d'Ivoire. Et donc, quand je me déplace d'ici en Côte d'Ivoire, en fait, le coût de ma communication est plus bas pour l'opérateur. Et alors qu'on me facture un taux élevé de roaming. Donc, en réalité, ce n'est pas cela. Il faut baisser ces coûts-là, le régulateur doit s'imposer. Et ça ne se fait pas par un seul pays. C'est un groupe de pays. Parce que
il faut mutualiser. Mutualiser également les infrastructures. Est-ce qu'on en discute un peu dans le gouvernement de dire, voilà, est-ce qu'on se met avec le Mali, le Burkina, le Niger? Est-ce qu'il y a ce débat vraiment?
Il y a ce débat, il y a un groupe G5 Sahel d'ailleurs, dans le cadre de la mutualisation des ressources et des infrastructures pour le numérique. Donc les discussions sont en cours, mais nous cherchons déjà à opérationnaliser cela. Et on le comprend, on comprend la nécessité, on a de grands territoires et peut-être pas nécessairement les moyens de notre politique, puisque les infrastructures sont extrêmement coûteuses.
Et au sein au sein de l'Union africaine, le dernier sommet, l'avant-dernier sommet, je ne sais pas au dernier, mais l'avant-dernier sommet, avait justement discuté de la normalisation des l'identité numérique, par exemple. Et donc, les pays sont encouragés à essayer de travailler ensemble pour que cela soit fait. Cela permettrait à ce que votre passeport soit reconnu dans n'importe quel pays africain.
Là, on n'est pas arrivé, hein, puisque d'un pays à un autre, on a encore des visas nos États. Donc, oui.
Mais certains pays montrent l'exemple déjà en acceptant tout passeport africain qui vient dans le pays. Mais forcément, il faudrait avoir techniquement des données qui vous permettent de savoir que ce n'est pas un criminel qui vient dans votre pays. D'où le concept de cybersécurité que j'espère que nous allons discuter du point de vue même culture.
Allons-y, parce que le temps est très très court. C'est-à-dire, vous pensez qu'il faut mutualiser dans la cybersécurité, cela va de soi.
Absolument.
Parce que sinon, ça ne marche
pas. Parce que le criminel n'est pas forcément dans le même pays, n'est pas même sur la scène du crime. Et donc, nous devons de faire des recherches ensemble. Nous devons de pouvoir coordonner et de donner une culture de cybersécurité pour que l'utilisateur lui-même ne commette pas des erreurs naïvement, ce qui est le cas aujourd'hui par manque d'informations.
On a le sentiment que nous sommes en Afrique les seuls à ne pas avoir le courage de dire il faut qu'on favorise aussi dans ce domaine-là les ressources humaines locales, les ressources humaines continentales. Comment ça s'explique? Là, je m'adresse à la ministre qui vient d'ailleurs quand même et qui a vu comment ça se passait ailleurs. Comment ça s'explique qu'on ne se dise pas, OK, on va avoir une préférence continentale dans des domaines aussi sensibles? C'est très timide, non?
Mais si vous allez chercher l'argent des autres, mais ils vont vous imposer leurs conditions.
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un idéal, encore une fois. On a envie d'aller vers cela et on recherche les compétences.
Mais il faut s'en donner les moyens.
Non, il faut s'en donner les moyens. Mais moi, je dis, au Mali, par exemple, nous avons des entreprises qui sont robustes et vers lesquelles nous allons sans problème. Si nous avions le choix entre, j'allais mentionner Google pour ne pas les mentionner, contre une entreprise malienne, si l'entreprise malienne a les compétences, on prendrait l'entreprise malienne. C'est très, très évident.
Mais on a
ça.
Le sentiment qu'il y a un complexe. Quand on a dit le nom que vous venez de citer, tout de suite on se dit, ah, c'est le meilleur. Alors que quelquefois, elle emploie des locaux.
Ces entreprises-là peuvent être les meilleures, mais en termes d'appropriation et de durée dans l'utilisation pérenne, ce sont les locaux qui sont les meilleurs.
Il faudrait peut-être une politique pour accompagner les locaux, pour leur donner le cadre pour qu'ils soient meilleurs, non? On a le sentiment que c'est ce qui manque. En se disant, oui, ok, ils ont des solutions en local, mais on ne les accompagne pas.
Moi, je pense qu'il faut arrêter d'être négatif.
Je ne demande qu'à être positif. Je viens d'assister à quelque chose qui m'a donné l'impression qu'on était peut-être positif dans notre esprit, mais dans la pratique, on était très, très négatif.
Moi, je peux vous donner l'exemple du gouvernement malien qui travaille avec des solutions développées localement par son agence de gestion des technologies et de l'information et de la communication, l'AGEDIC. Nous n'avons aucune solution qui a été développée, même par un pays voisin. Ce sont des solutions locales qui ont été développées pour les besoins de l'administration malienne.
Vous pouvez m'en citer une ou deux comme ça?
IGESCO, qui est un système d'archivage du courrier, notre messagerie gouvernementale, développée par l'AGEDIC. Nous avons un logiciel de passation de marché, développé par l'AGEDIC, nous utilisons.
Et l'AGEDIC développe utilise des logiciels libres et vraiment fait beaucoup de bonheur.
Développé au Mali.
Voilà, comme ça au moins on termine sur une note positive. Mais est-ce que c'est le cas au Sénégal aussi?
Oui, tout à fait. Donc il y a énormément d'outils locaux qui sont utilisés, développés par des sociétés.
Donc maintenant on va rêver que les plus gros marchés soient aussi attribués à ces entreprises-là avec des applications locales. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre.
Source de financement d'un autre pays et pas vous imposer certains de leurs opérateurs.
Le docteur Amadou Touré mentionne quand même cette question. Qui finance paye et qui paye commande.
Absolument.
Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault. Nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
L'épopée des musées.